Ce Radio Barque, donc, numéro 9, prévoit comme invité aujourd'hui Nicolas Sainte-Cluc. Alors, rappel de présentation, vous êtes d'une part donc leader de l'opposition, si je puis dire, à Narbonne, au conseil municipal, donc conseiller municipal et porte-parole de l'opposition. Vous êtes également conseiller communautaire au Grand Narbonne et vous êtes également conseiller départemental, donc dans l'Aude, au conseil départemental de l'Aude. Mais parmi les choses qui nous intéressent peut-être plus aujourd'hui, parce que c'est l'actualité, vous êtes également candidat déclaré clairement aux prochaines élections municipales sur la ville de Narbonne. Et comme vous êtes le leader de l'opposition, ben on vous peut-être qu'on vous octroie une crédibilité peut-être supplémentaire à d'autres, je ne sais pas. Enfin, on va y revenir. Et puis, vous êtes également, alors depuis un certain temps, membre du Parti socialiste. Et j'ai envie de dire, Nicolas Sainte-Cluc, vous êtes toujours membre du Parti socialiste.
Oui, je suis toujours membre du Parti socialiste. Je suis loyal, fidèle à mes idées. Et c'est vrai que ça peut paraître étrange, hein. Beaucoup de gens m'ont posé la question et moi je vois pas pourquoi.
C'est
je...
pas dans l'air du temps, si
je c'est vrai
dire.
Que c'est pas dans l'air du temps, mais je suis pas un opportuniste. Je crois à des idées. Alors je suis peut-être, certains peuvent penser que je suis un idéaliste, mais je pense qu'il faut avoir un peu des idéaux. Ce qui manque dans notre société aujourd'hui, justement, c'est avoir un idéal. Et quand on perd l'idéal, ben la machine elle se grippe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On le voit bien. Donc moi j'ai des valeurs, effectivement. Je pense qu'il faut défendre, il faut avoir des politiques de gauche. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait aussi ce rassemblement de Narbonne en commun, hein, avec toutes les forces
oui,
de gauche.
Oui, alors c'est un petit peu une union de la gauche.
Tout à fait.
Oui, genre...
Des forces de gauche. Alors, vous avez aussi l'ELV, hein, donc les Verts, qui nous ont rejoints et qui se sont aussi, donc qui ont signé aussi la charte et qui se
oui,
considèrent aussi
à un moment, à ça s'appelait la gauche plurielle sous Jospin.
Oui,
c'est
oui, tout à fait.
Toujours une sorte d'une gauche.
Sauf que là, à Narbonne, quand même, je crois que... Je sais même pas si ça s'était déjà fait ou si ça s'est fait. C'était avant que je naisse, me semble-t-il. Hein. Depuis 71, en tout cas, je crois qu'il n'y avait pas
les
eu...
Les communistes et les socialistes
ensemble. Et les socialistes, vous voyez, comme quoi on arrive quand même à pacifier, on arrive surtout à retrouver un sens commun et avoir voilà une convergence sur ben, les points essentiels, sur nos points communs justement pour les Narbonnais et les Narbonnaises.
Oui, le PC ne pesant plus aujourd'hui ce qu'il pesait il y a 40 ans, il faut le dire aussi.
Oui, mais je crois que, vous savez, qui pèse quoi aujourd'hui? On n'en sait rien en fait. Ce qu'on sait par contre, c'est que les gens de gauche ont été très déçus. Très déçus, ils se sont sentis trahis, à mon avis. Hein.
Mais trahis par qui?
Mais trahis par les institutions, par les appareils, par les partis, par les apparatchiks. Mais bien sûr.
Certains de ceux qui étaient au Parti socialiste au pouvoir.
C'est pour ça qu'il faut redonner du sens aussi localement, hein, par des politiques. Lorsqu'on fera des propositions, on redonnera du sens. Il faut donner envie aux gens de gauche de revoter. Et souvent, ceux qui ne vont pas voter, ben, c'est effectivement les gens de gauche, parce qu'ils restent à la maison, ils se disent à quoi va servir mon vote si effectivement ça ne change rien. Et c'est ça qui est terrible. Penser que on ne peut plus rien changer.
Oui, c'est-à-dire que c'est un peu une sorte de désespoir
quand
on est dans cette logique-là.
Tout à fait. Et bien nous, justement, on est là pour redonner de l'espoir et pour redonner du sens à nos valeurs.
Ouais. Mais alors, sachant que, par exemple, le précédent président était socialiste, M. Hollande, qu'il a failli sur un certain nombre de points, que d'autres, c'est pas le seul, ont failli également, comment vous, aujourd'hui, parmi les jeunes de cette génération du PS, redonner espoir à des gens et surtout redonner une crédibilité en l'honnêteté, l'idéal, peut-être, vous disiez, des gens qui, aujourd'hui, continuent à se dire socialistes. Bah,
déjà, c'est en étant transparent aussi sur ce que l'on fait. On dit des choses que l'on peut faire aussi. C'est aussi consulter les gens. Enfin, moi, je pense que vous l'avez vu. Je vous l'avais dit d'ailleurs quand j'étais venu ici. Hein. Moi, je faisais un gros travail de consultation. Je voulais justement rassembler le plus large possible. Et donc, il faut écouter les gens, rassembler, leur proposer des choses concrètes et les réaliser, c'est-à-dire par des actions. C'est pour ça que les élections locales sont pour moi les élections les plus importantes. C'est là que a tout son sens l'action politique. C'est-à-dire qu'on peut vraiment mettre en forme nos idées et avec du concret. Et c'est là que les gens nous attendent.
Oui. Alors à propos de ce que vous dites, c'est-à-dire l'élection municipale, oui. c'est la base de la démocratie. Là encore, cette élection-là, ou en tout cas cette gestion-là, a été relativement mise à mal par l'intercommunalité. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, Monsieur Perea, le député actuel, nous expliquait qu'il travaille sur une réforme de l'intercommunalité, parce que, disait-il, elle est partie sur un mensonge, l'illusion qu'on allait supprimer des communes en créant ces intercommunalités. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça marche relativement, enfin, pas toujours très bien, pour tout un tas de raisons, parce que les maires sont dépouillés d'un certain nombre de leurs prérogatives. Et donc, que pensez-vous de la nécessité de revoir ce fonctionnement? Est-ce que vous pensez qu'il est bon ou qu'il y a trop de pouvoir?
Je ne suis pas en adéquation avec ce qu'a indiqué Monsieur Alain Perea. Alors pas pour des raisons politiciennes, tout simplement parce que moi, au contraire, enfin, d'ailleurs, il me semblait qu'il était lui au départ un fervent défenseur justement de l'intercommunalité, notamment aussi lorsqu'il était directeur du SCOT. Voilà, donc on était vraiment dans cette mouvance-là. Alors, il vous a pas échappé que Monsieur Macron, qui était très déconnecté de la base, a compris qu'il avait besoin des maires, et tout d'un coup, il y a un retour en arrière qui est incroyable, incroyable. Et moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Vous savez, moi, par exemple, j'ai été contre le vote pour l'établissement public intercommunal pour le tourisme. Pourquoi j'ai été contre? Parce que trois grandes collectivités ne rentraient pas dans cette EPCI. Et notamment, vous n'aviez pas la ville de Narbonne, vous n'aviez pas Gruissant, vous n'aviez pas le 4.
Oui, pour dire les choses clairement, parce que c'était mal foutu.
Parce que moi, j'étais au contraire pour que tout le monde y soit. Et moi, je considère que si on veut avancer, justement, si on veut avoir des moyens d'action efficaces, notamment pour les petites communes, parce que qu'est-ce que De quoi souffrent les petites communes aujourd'hui? De ne pas avoir assez de moyens. Et il faut des moyens, il faut une solidarité aussi intercommunale. Et le Grand Narbonne et l'agglomération permet justement d'avoir cette solidarité. Et plus on a des moyens communs, et on les met en commun, et on se parle, et on décide ensemble de quelles sont les priorités pour justement développer l'économie, l'emploi, le bien-vivre aussi sur l'ensemble de l'agglomération, eh bien on est plus fort. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est évident. Et il me semble que ce discours qui consiste à dire « Non, regardez, les maires, ils n'ont plus assez de pouvoir, etc. » Ça, par contre, c'est de la politique politicienne. C'est pas le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est au contraire d'avoir des moyens, d'avoir une stratégie cohérente de développement de tout un territoire. Donc moi, je suis pas pour ce retour en arrière. Moi, je pense notamment pour le plan local d'urbanisme, que ça devrait être un plan local d'urbanisme unifié, intercommunal, pour justement qu'il y ait une cohésion aussi dans le développement, notamment de l'urbanisme. Tout à l'heure, Michel vous l'a indiqué, Michel Santo, l'urbanisme, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui va aussi faire que les gens sont bien à la fois dans un environnement agréable.
Être bien logé, c'est un bon
début
aussi dans la vie.
Où il y a une certaine tranquillité et la mobilité aussi. Il faut prendre en compte les mobilités, les distances travail, maison. Donc tout ça est important. Et je pense que de dépouiller aujourd'hui les intercommunalités de leur pouvoir et revenir en arrière, ce n'est pas une bonne stratégie. Alors c'est une stratégie peut-être pour être réélu président de la République ou député, mais ce n'est pas une stratégie en tout cas bonne pour notre territoire.
Mais pourtant, ce système-là éloigne quand même les élus, notamment pour les maires des petites communes, éloigne les élus, ne serait-ce qu'en distance. Aujourd'hui, je prends un exemple, quelqu'un qui est dans une commune à 20 km de Narbonne, dans le Grand Narbonne, s'il a un problème, il va voir son maire, le maire lui dit « Désolé, là, il faut voir le Grand Narbonne ». Il y a un éloignement
Non, parce que justement, le maire est en contact tout le temps avec... Le maire continue, il est toujours là. Donc, le maire est en contact avec le service du Grand Narbonne, il appelle et le problème est réglé.
Donc, ça fait une courroie de transmission.
Ça fait une courroie de transmission, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez... Est-ce que les communes de 400, 500 habitants, vous savez, dans l'Aude, il y a 464 communes. Est-ce que vous croyez que la plupart des communes ont des moyens financiers pour avoir une police municipale, pour avoir un service urbanisme, etc. Non. Donc aujourd'hui, il faut avoir des moyens. Après, bien sûr, il faut les déployer partout de manière égalitaire. Mais ça ne peut se faire qu'en ayant aussi les plus grosses communes qui vous financent. C'est là le problème. Si on redonne du pouvoir à chaque commune, comment va-t-on faire au niveau des budgets? Qu'est-ce qui va se passer? Celles qui sont pauvres restent resteront pauvres et celles qui sont plus riches resteront plus riches. Et donc on va avoir ce phénomène encore où finalement on va avoir une paupérisation de certaines communes et d'autres qui vont devenir de plus en plus grosses. Et ça, c'est un réel danger.
Oui. Alors l'idée de base étant la solidarité, tout le monde avait compris. Dans la pratique, par exemple, revenons sur un cas concret que tout le monde va comprendre. On a élu un maire à Narbonne. On n'a pas élu un président de l'agglo, ça s'est fait d'une façon telle que la loi le prévoit aujourd'hui.
C'est démocratique.
C'est légal. Ah, voilà, tout à fait. C'est légal. Est-ce vraiment démocratique? C'est encore peut-être une autre question. Toujours est-il qu'on arrive à une situation que tout le monde connaît, qui est souvent d'un blocage quasi quotidien.
Oui, alors ça, je pense aussi que, ben, je crois que vous avez aussi, il y a eu Dinier Codorniou aussi sur vos ondes, qui a indiqué que il y avait besoin d'apaisement et de travail en collaboration entre la ville et le centre.
C'est des vœux pieux.
Il faut effectivement le mettre en adéquation. Il faut le travailler. C'est-à-dire que c'est vrai que on peut pas revivre ce qu'on a vécu ces dernières années. Enfin, moi, je sais d'où ça vient quand même. Monsieur Jacques Bascou a quand même tendu la main plusieurs fois, de nombreuses fois, et malheureusement aux commissions, la ville était très souvent absente après faisait la communication.
Non, mais c'est ce que dit Nouveau-Narbonne aussi.
Ouais, mais attendez, quand vous voyez sur le plan de déplacement urbain, quand vous voyez sur les pistes cyclables, finalement, Monsieur Mouy a compris, Monsieur le Maire a compris la dernière année, deux ans avant la fin du mandat, que effectivement les gens n'avaient ras le bol de cette guéguerre où ils renvoyaient tout le temps sur l'agglo et où ils travaillaient pas en partenariat avec l'agglomération. Et tout d'un coup, il a changé son fusil d'épaule parce qu'effectivement, il a compris que c'était contre-productif, surtout par rapport à son image. Et tout d'un coup, on se met à dire « je fais une voie verte, je fais un peu une piste cyclable, etc. » Mais vous avez vu le retard que l'on a pris. Et ça, c'était pas dû au service de l'agglo. Si vous regardez tous les documents de manière objective et tout ce qui a été fait, ça a été bloqué. Vous avez aussi reçu Édouard Rocher, il vous a dit la même chose. C'était lui qui était en charge de ce dossier. Et il était vraiment désespéré de ne pas pouvoir avoir la ville centre. Effectivement, quand vous n'avez pas la ville centre, eh bien, vous ne pouvez pas avancer aussi vite.
Oui, voilà. Mais le problème, alors peut-être symbolique, étant, et ça c'est ce que dit le maire Monsieur Mouly et d'autres membres de Nouveau-Narbonne, à savoir, il aurait fallu au moins une ou deux ou trois vice-présidences à la ville centre. Symboliquement, le fait de ne pas les avoir octroyées était une sorte de rejet ostentatoire.
Peut-être, mais enfin, la manière dont ça a été fait aussi le premier vote, vous voyez, il y a eu quand même des trahisons multiples de chaque côté. Enfin, vous voyez, ça a quand même été assez épique, comme vous l'avez
indiqué. Voilà, et c'est bien tout le problème, c'est que la loi permet ce genre de magouille, entre guillemets. Ouais. Donc peut-être qu'il y a besoin
des manœuvres, clairement.
Oui. Et c'est peut-être là où l'intercommunalité prêche parce qu'elle n'est pas suffisamment claire pour le citoyen.
En tout cas, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que la ville centre n'a plus la majorité à l'agglomération. Mmh. Et donc la ville centre ne peut pas décider seule, dans son coin, comme ça se faisait avant. Mmh. C'est pour ça que c'est important, l'intercommunalité, aujourd'hui, c'est là qu'elle a toute sa place. Moi, aujourd'hui, je suis dans un groupe. J'ai fait un groupe, donc, Narbonne en commun. Vous avez Nouvelle-Donne, vous avez J'aime Narbonne, vous avez ELV, vous avez le PCF, vous avez le PS. Je peux vous assurer qu'il faut savoir discuter, il faut savoir, effectivement, écouter, entendre, la différence entre écouter et entendre, je crois qu'il n'y a pas longtemps, vous l'avez aussi indiqué. Entendre, c'est tirer les leçons de l'écoute. Et à un moment donné, on met le combat. Pas, qu'est-ce que c'est l'intérêt général? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Est-ce qu'il y a un consensus sur le choix qui est fait? Oui. Eh bien, on va dans ce sens-là parce que c'est de l'intérêt général, c'est l'intérêt de tous. C'est comme ça que ça doit se faire. Et ça doit se faire aussi comme ça avec les autres villes et villages. Et donc, c'est pour ça que c'est important de le savoir. Et donc, effectivement, il faut faire très attention à ne pas froisser les susceptibilités des uns et des autres et travailler vraiment en commun. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais m'évertuer à faire au cours de cette campagne. Et si on est élu aussi par la suite.
Oui, alors justement, votre stratégie, on a parlé du fait que vous êtes resté fidèle à votre parti d'origine, le Parti Socialiste. Votre stratégie sur la campagne municipale, elle semble Alors, par rapport à d'autres, je relativise, elle semble aussi aller à rebrousse-poil dans la mesure où vous, vous êtes clairement sur une entente entre divers partis politiques. Mm-hmm. Vous n'avez pas peur du mot.
Alors, pas que des partis d'ailleurs. Il y a aussi le mouvement citoyen Narbonnais, qui n'est pas un parti, qui est une association, avec des gens très dynamiques, qui ont aussi beaucoup d'idées. Il y a d'autres aussi qui frappent à notre porte, hein, sachez-le. Elle est toujours ouverte. Et donc, c'est vrai que, on va un peu à la rebrousse-poil, mais en même temps, beaucoup disent, parle de démocratie participative. Ils en
parce
parlent
que
beaucoup.
Tout le monde dit aujourd'hui, on ne veut plus politiser.
Oui, ils en parlent beaucoup, mais ils le font pas. C'est-à-dire que, en plus, souvent ils disent, oui, on fait d'abord les idées, on réfléchit, et ensuite on fait les listes. Mais quand vous regardez la réalité des choses, moi je sais aujourd'hui que la plupart ont déjà fait leur liste. Par contre, sur leur programme, ils ont quelques idées comme ça, mais ils n'ont pas fait le programme. Nous, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on consulte les gens. On a fait des réunions publiques. D'ailleurs, aujourd'hui, on a toute difficulté pour avoir des salles, je vous le dis. Hein. Le maire de Narbonne refuse aujourd'hui qu'on ait autre chose que la salle principale du Palais du Travail. Notamment, on doit faire une réunion à Narbonne-Plage. Malheureusement, la salle bouddhiste ne nous est pas accordée. Or, il n'y en a aucune autre à Narbonne-Plage. Hein. Donc là, il y a un problème de proximité. C'est quand même à 18 km de la ville-centre. Mais voilà. Donc on fait des réunions publiques. Et notamment, on va faire une réunion publique donc ce samedi, entre 9h30 et 17h, avec des tables rondes. On l'appelait la Grande Ruche. Pour que les gens puissent travailler, c'est-à-dire c'est une réunion de travail, tous les gens peuvent venir pour travailler sur les thématiques qui correspondent aux compétences à la fois de la ville de Narbonne et de l'agglomération. Et ça, c'est du travail collaboratif. Bien sûr, nous, on a déjà mis en commun, on a fait un document de nos synthèses, de nos propositions, tous les groupes, et ensuite, on va confronter nos idées, bien sûr, aux gens, à ceux aussi. C'est pour ça, tout à l'heure, Michel parlait de priorités. Quelles sont les priorités? Effectivement, c'est difficile. Quel est l'appareil de mesure des priorités?
C'est
pas les mêmes pour chaque quartier, mais par contre, on peut avoir une tendance. Et on peut effectivement, après, quand la démocratie participative, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on demande aux gens quelles sont leurs priorités, et en fonction de ça, on met le compteur et on met les projets dans un ordre particulier. Et après, pendant le mandat aussi, on peut revoir cet ordre par des outils de démocratie participative.
Alors, Nicolas Saint-Cluc, puisqu'on est en train de faire un tour d'horizon à leur politique, n'ayons pas peur du terme, mais au sens propre noble du terme.
Et pas figuré. Voilà. C'est ça.
Vous êtes donc, je le disais, conseiller municipal. Vous êtes surtout connu à ce niveau-là. Vous êtes également conseiller communautaire. Mais vous êtes aussi conseiller départemental de l'Aude. Et j'imagine que beaucoup de gens l'ignorent. Vous êtes beaucoup moins visible, entre guillemets, je sais pas si le mot convient, à ce niveau-là. Comment expliquer cette chose-là, ça vient des institutions. Le département compterait moins que la ville.
Non, c'est pas que ça compte moins. C'est-à-dire, c'est, il est sur d'autres compétences. Vous savez, le département est surtout sur les compétences sociales. Oui. Il a aussi les collèges. Hein. Donc tout à l'heure, d'ailleurs, Michel a fait un petit billet sur la retirada et sur l'association Alteo. Il disait que c'était une nouvelle association et qui Alteneo et qu'il en avait marre de voir qu'on était sur la retirada, etc. Alors moi, j'ai regardé justement cette association et cette association. En fait, j'ai des amis, hein, Nanou Kazillac, qui est vice-présidente, monsieur Yvan Hurtado. En fait, c'est pas seulement sur la retirada, c'est vraiment sur toutes les multiples exits espagnols, voilà, qui ont effectivement touché notre population et les générations précédentes. Et il y a vraiment une volonté, pas seulement de victimisation, au contraire. Je lis bien ce qu'ils avaient indiqué. C'est surtout une volonté de partage de la culture espagnole. Voilà. Donc c'est vraiment
donc pas seulement la retirada.
Non, et puis avoir aussi des côtés festifs. Et quand vous prenez l'abréviation de cette association, ça fait ADN, l'Espagne en héritage. Donc c'est quand même positif. Il faut positiver aussi les choses. C'est bien qu'il y ait cette association en plus, parce que c'est vrai, moi-même j'ai des origines espagnoles. Hein. Mon grand-père s'appelait Lopez, ma mère s'appelle Lopez, et je crois qu'on en a tous. Alors moi c'est pas la retirada, c'est une autre histoire. Mais c'est important effectivement de retrouver quand on est au département et qu'on s'occupe aussi des collèges, la retirada et le devoir de mémoire aussi pour toutes les guerres, pour tout ce qui s'est passé est très important. La mémoire, c'est effectivement ce qui nous permet d'avancer, pas bien sûr en se victimisant, mais en retirant les leçons de l'histoire. Voilà. Et donc ça, c'est très important. Alors le département, c'est vrai que moi, par exemple, je m'occupe des énergies renouvelables au niveau du département. Or, c'est peu visible ici, concrètement, mais c'est vrai qu'au niveau, en tout cas, du département, on a une stratégie qui a été mise en place. Et ça, c'est vrai que il faut communiquer et c'est par le biais des institutions, des autres collectivités, qu'on arrive aussi à faire passer des messages et avoir des actions concrètes. Alors c'est vrai que pour les gens, le département, c'est surtout les écoles, les collèges, excusez-moi, c'est le social, hein, donc c'est l'enfance, la l'aide à l'enfance, c'est l'aide aux personnes âgées, et c'est aussi les routes. Hein, les routes, hein, ce que voient les gens souvent, c'est des routes, l'état des routes. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît un peu plus éloigné, mais en même temps, il faut communiquer, et depuis que les compétences sont quand même très bien délimitées, et plus elles seront bien délimitées, et plus les gens comprendront qui fait quoi. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, au niveau de l'agglomération, savent ce que fait l'agglomération, ils savent ce que fait la ville.
Peut-être pas tout le monde.
Plus qu'avant, en tout cas.
Oui, plus qu'avant, il faut l'espérer.
Voilà, c'est le côté positif de ce qui s'est passé, finalement.
Voilà, mais justement, ça, c'est peut-être un gros problème des institutions françaises, et notamment ces
trop de compétences liées.
Liées, et oui. Ces financements écartelés, finalement.
Oui,
écartelés,
tout à fait.
Parce qu'il faut... Tiens, revenons. Alors, je vous ai souvent posé la question, M. Saint-Cloud, quand vous veniez ici. Quand est-ce que la rocade va s'ouvrir? Alors, je vous la pose plus. Elle est ouverte.
Je vous avais promis
qu'elle
serait ouverte avant l'été.
Elle fonctionne. Apparemment, c'est même du bon travail. Oui. Elle est très utile. Elle a été bien faite, semble-t-il.
Oui.
Bon. Mais... Pour l'obtenir, il a fallu des années, des années, des années, pour une foule de raisons, mais notamment parce qu'il y avait 3 ou 4 ou 5 financeurs différents.
Oui, entre autres. Et après, il y a aussi beaucoup d'études, de changements aussi de loi. En fait, et finalement, moi, je vois toujours, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Hein. Si on l'avait faite il y a 10 ans, cette rocade, aujourd'hui, elle aurait un gros souci.
Elle n'aurait pas la même allure.
Elle aurait surtout un gros souci au niveau
de l'eau. On aurait fait une digue.
On aurait de gros soucis au niveau de l'hydrique, tout ce qui est hydrique. Alors que là, effectivement, il y a une transparence totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème d'affaissement, elle est vraiment viable pour des années, pour les années à venir, pour aussi prendre en compte aussi la montée des eaux. Hein. Donc c'est quand même un ouvrage qui finalement va durer et qui est intéressant au niveau aussi environnemental. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il n'y avait pas la prise en compte des situations environnementales, des oiseaux, des chauves-souris et des crapauds, comme on avait expliqué la dernière fois. Donc tout ça est pris en compte et finalement, il y a quand même un savoir qui a changé. Et bon, et la rocade, c'est pas la panacée. Je crois qu'il a aussi, au niveau des mobilités, dans le cadre du programme municipal et dans le cadre, en tout cas, de cette campagne municipale, ça sera un très gros sujet parce que la mobilité, effectivement, c'est essentiel pour les gens, hein, pouvoir se déplacer sans perdre trop de temps, sans être aussi trop pollué. Et voilà, ça, c'est quand même très, très important, la liberté de se déplacer.
Eh bien, c'est là-dessus, sur cette rocade et donc une construction concrète, positive, que nous allons conclure. Merci donc Monsieur Saint-Cloud.
Je vous remercie, Jean-Claude, c'est toujours un plaisir.
Voilà,
de venir à votre émission.
Je rappelle donc vos différentes casquettes, conseiller municipal, leader de l'opposition, mais aussi communautaire et départemental, mais également membre du Parti socialiste, et on a évoqué un certain nombre de choses. Oh, et pour reprendre votre terme au niveau de l'hydraulique, dans une certaine transparence.
Transparence, tout à fait.
Merci en tout cas. Et le prochain invité, alors, sera quelqu'un que vous connaissez et que vous allez rencontrer de nouveau pour cette campagne. Ça sera monsieur le maire actuel de la ville, Didier Mouly. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
Au revoir.